Chapitre 8. Conseils qu'on ne demande pas. Thérèse, à son grand ennui, se rencontra sur le perron de la pension Stephen avec Mlle Galimard, qui rentrait également pour le souper. Allô, quelle toilette ! Fit la vive petite Française qui, d'un seul coup d'œil, avait inventorié Thérèse de la tête aux pieds. Percale, aubépine, etc. Ensemble champêtre. Il n'y manque que le brin de myosotis dans le fichu. D'où venez-vous comme ça, naïve enfant d'Helvétie ? C'était le sobriquet que Galimard avait collé à Lemaire, car elle appelait chacun par son nom de famille ou par un surnom assez bien trouvé. Elle traduisait Kesselmann par les deux bouilloires, toujours prêtes à fournir l'eau tiède de leur insipide conversation. M. Black était le beau ténébreux, non qu'il fût remarquablement beau, mais parce que Black signifie le noir. « Je suis allée à la campagne, » répondit Thérèse aussi brièvement qu'elle put. Et le brin de « Ne m'oubliez pas, c'est lui qui le porte à sa boutonnière. Rougissez, ça vous va très bien. »« Je ne rougis pas, » protesta Thérèse. La porte s'ouvrit au même instant. Les deux pensionnaires, qui se savaient fort en retard, montèrent précipitamment dans leur chambre. Quand elles descendirent, il était 7h30, la salle à manger était vide, le couvert était ôté, la nappe balayée de ses miettes. Ce qui restait, c'était une théière pleine de thé refroidi, du pain et du beurre. Madame Stephen était implacable sur la ponctualité. Mademoiselle Galimard déballa deux petits paquets enveloppés de papier blanc et mit sur deux assiettes quatre minces tranches de jambon, deux petits gâteaux. « Nous allons faire la dînette, » invita-t-elle. « Ne refusez pas, ça n'en vaut pas la peine. Le premier shampoing que Madame Stephen me demandera paiera ça, allez. Il faut savoir se débrouiller en ce monde. »« Vous le savez très bien, en tout cas, » fit Thérèse préoccupée. « Un reproche ?»« Non, loin de là. Je sens la différence. »« Mais savez-vous que nous nous entendrions très bien, vous et moi ? Ce jambon n'est pas mauvais. » Prenez la seconde tranche, c'est votre part. Les petits gâteaux, je les ai achetés au Bon Coin, chez Ferroli, Tessinois. La grande affaire, c'est de connaître les bons coins. Sérieusement, le maire, puisque pour une fois, on peut parler français en mangeant, avez-vous du capital ? Pas un radis, juste de quoi payer ici encore quelques semaines. Alors, ma foi, dépêchez-vous de trouver une situation et ne faites pas de bêtises. Galimard appuya sur ce dernier mot et leva un doigt en regardant Thérèse qui sentit une chaleur écarlate lui monter aux joues. « Non, voyez-vous, poursuivit la conseillère sans mandat, il ne faut pas faire de bêtises, ça coûte toujours plus que ça ne vaut. »« Mais je n'ai ni l'envie ni l'occasion de faire des bêtises, » protesta Thérèse. « Bah, bah, je vois clair. Êtes-vous allée seule à la campagne, chez des dames amies ? Non ? Si vous avez fait une partie avec un beau jeune homme, laissez-moi vous dire franchement que pour vous, c'est bien risqué. Pour vous, parce que vous n'avez pas ce qu'il faut, pas de défense. Vous n'êtes pas flirteuse pour un sou, ni roublarde, ah non. Moi, si je voulais, je ferais 100 parties de campagne ou de bateau. Tenez, vous venez d'avoir un petit mouvement de lèvres, un petit sourire. C'était en bateau, oui. « Eh bien, moi, je me tirerai d'une douzaine de bateaux sans une égratignure. Mais je suis sérieuse, je penserai au mariage sérieux quand j'aurai mon institut de beauté et ma clientèle. Dans 2 ans, peut-être. Le beau ténébreux serait un excellent mari comptable. »« Vous êtes inouïe !» s'exclama Thérèse. « Je ne croyais pas qu'on pût organiser sa vie comme cela, dans ces lignes, à l'avance. »« Je suis positive, c'est certain. » Je suis française, pas du tout la française des romans, mais la vraie, celle qui mène les affaires de la famille française. Écoutez, ma bonne le maire, permettez-moi un conseil, même une question. Qui est le jeune homme ? Il est journaliste, répondit Thérèse, contente de pouvoir s'ouvrir un peu. Il est bien élevé, il a ramé aux régates d'Oxford. Oh là là, très mauvais ça, c'est un swell qui n'épousera pas. « Un simple calicot vaudrait mieux. »« Il n'est pas question d'épouser, » murmura Thérèse. « Alors, de quoi est-il question ? D'avoir des rendez-vous gentils dans les parcs, sur la rivière ?»« Le maire, prenez garde. »« Peut-on le voir, ce garçon ? vient-il vous prendre ici ?»« Non, il ne désire pas faire la connaissance de Madame Stephen. » Thérèse fronçait légèrement le sourcil, se rappelant que Pierre Coombe avait dit « Ce n'est tout de même pas mon milieu. » En le quittant, elle lui avait permis de l'attendre de nouveau sous le Maple Arch le lendemain à 10 heures pour aller passer toute la journée à Richmond. Il avait demandé cette promesse presque humblement, sans aucune trace de l'impertinence narquoise qui déplaisait à Thérèse et la tenait sur la défensive. « Nous deux, tout seuls, si pauvres, un peu tristes. » C'est ainsi que, pour la seconde fois, il avait défini le duo Thérèse et Pierre. Et il avait ajouté « Nous serons deux bons vieux, si vous voulez, deux vieux camarades. » « C'est bien plus amusant d'avoir un cavalier que de se promener seul, » fit Thérèse, cherchant à reprendre quelque assurance. « D'accord, mais il faut prévoir la suite. Ce cavalier, qui est de bonne famille, puisqu'il a étudié à Oxford, pour ce qu'on y étudie, ne demande-t-il rien en retour de ses gentillesses? Pas un petit baiser, la moindre des choses ?»« Je lui ai dit qu'il ne fallait pas, » déclara Thérèse en se redressant. « Hum, il a donc essayé. Enfin, le maire, ne dites jamais que je ne vous ai pas averti. » La météorologie sembla s'associer avec Galimard pour mettre Thérèse dans un chemin de prudence. Le baromètre avait baissé subitement. Le lendemain, la pluie tombait à verse. Fallait-il laisser Pierre Coombe se morfondre sous le Maple Arch? Mais y serait-il seulement venu, puisque la partie à Richmond tombait dans l'eau? À 9h30, Thérèse se disait « Il connaît mon adresse, il n'a qu'à passer ici pour s'informer, pour faire un autre projet. » Et voyez sa sagesse, à 10h moins le quart, avec imperméable et parapluie, elle se dirigeait précipitamment vers Hyde Park. Elle apercevait sous la profonde voûte de marbre son camarade qui allait et venait comme un fauve en cage. « J'allais partir, » fit-il d'un air de mauvaise humeur. « C'est plutôt moi qui vous attendais, » riposta-t-elle. « Comment ? Où donc ? Mais chez moi ? Pour une personne de votre caractère, je croyais que ce qui est convenu est convenu, » prononça-t-il sévèrement. « Oh, ne faites pas le maître d'école, je vous prie !» Subitement, il se mit à rire, souleva son chapeau. « Disons-nous bonjour d'abord. Bonjour, mademoiselle Thérèse Lemaire. Bonjour, monsieur Ernest-Pierre Coombe. Le programme est à refaire. Évidemment, vous à votre journal et moi à mon agence, où on me dira comme tous les jours, rien encore pour vous. Nous passerons à votre agence si vous voulez. Ensuite, nous irons au musée de Kensington, où il y a de belles choses à voir et des coins où on peut causer tranquillement. Nous prendrons un petit lunch quelque part, nous verrons après. Le temps s'éclaircira peut-être. « C'est que je ne suis pas en toilette, » dit Thérèse avec hésitation. « Personne n'est en toilette dans les rues de Londres par un si vilain temps. Pensiez-vous que je vous laisserais m'échapper ?» Les yeux un peu obliques et trop rapprochés, attachés sur la jeune fille un regard ardent, un regard dévorant lui parut-il. Elle recula sous la voûte. « Je ferais mieux de rentrer, » murmura-t-elle, hésitante. « Que vous êtes façonnière !» dit Pierre Coombe se penchant vers elle et lui saisissant le coude. « Vite, vite, voilà un hansom qui passe. Courons !» Il entraîna sur le trottoir, le fiacre ailé s'arrêta. « Passons d'abord à votre agence pour que vous en ayez le cœur net. Donnez l'adresse. » 5 minutes plus tard, Thérèse remontait dans le hansom en disant « C'est bien comme je pensais, rien encore pour moi. » « Très bien. » Alors, en route pour le musée. Connaissez-vous déjà la salle des porcelaines de Chine et des Indes? Vous ouvrirez des yeux. Pierre Coombe savait toujours et partout ce qu'il fallait faire pour les billets, le vestiaire, les facilités et les petites économies. Inutile d'acheter un catalogue, tous les objets sont étiquetés. Et même, on se fait bien voir des surveillants si on les questionne. C'est le contraire du Louvre, où tout visiteur est traité comme l'ennemi héréditaire. Bon, voilà la salle que je cherchais. Une banquette. Asseyons-nous 5 minutes. Les yeux de Thérèse étaient déjà fixés sur une jarre très haute qui jaillissait du parquet brillant et s'y mirait comme un calice de rêve dans l'eau obscure d'un étang. La matière de cette adorable chose était une pâte aussi exquise que le tissu d'une fleur, mate, d'un blanc de clair de lune qui diffusait de la clarté autour d'elle. Sur les beaux flancs de la jarre d'une ligne parfaitement pure, un rameau d'or étendait son mince feuillage ouvragé, incrustait les petites boules d'or de ses fruits et s'allongeait en vrille délicate vers le col mince, aussi tendrement modelé qu'un cou de jeune fille. Thérèse se leva et, pour suivre dès la base tous les détails du décor délicieusement entrelacé, elle s'agenouilla sur le parquet. Pour rien au monde, elle n'eût touché cette jarre qui lui paraissait sacrée à force d'être belle. C'est pourquoi le petit mot d'avertissement qu'elle entendit à son oreille la blessa un peu. « Relevez-vous, voyons, nous ne sommes pas à l'église. » Elle revint à la banquette de cuir, se rassit. « Ah ! » fit-elle avec effusion, « c'est comme les nénuphars hier. Il valait la peine de venir à Londres pour voir cela. Encore un plaisir, plus qu'un plaisir, que je vous dois. » « Vous étiez déçu en sortant de l'agence, » dit Pierre Coombe, en lui prenant la main d'un geste de grand frère qui ne l'alarma point. « Oui, vous étiez fort déçu. Mais quelle chance au contraire! Si la bonne dame des registres vous avait dit « une excellente place, vous allez filer vous présenter, c'est du côté du Crystal Palace, où seriez-vous à présent? Vous n'auriez pas vu cette jarre, vous ne déjeuneriez pas tantôt avec votre dévoué serviteur. » « Non, sans doute, » dit Thérèse, retombant dans son souci. « Mais il faut tout de même que je trouve une issue. » « Vous la trouverez quand vous voudrez, » prononça-t-il en lui serrant un peu les doigts. « Ah bon, voilà ma méchante qui retire sa main. J'allais vous donner un excellent conseil. »« Vous ? Mais je ne demande pas de conseil, » dit-elle, pensant à ceux de Galimard. « Vous perdez votre temps et votre argent à la pension Stephen. Prenez deux jolies chambres dans un joli quartier et donnez des leçons chez vous. Je vous trouverai des élèves pour la conversation. » Être institutrice dans une famille, c'est les galères. Vous serez bien plus libre. Nous pourrons nous voir et nous promener. Je m'inscris pour être votre premier élève. Vous serez la mienne aussi pour parler anglais. Je vous enseignerai à prononcer le « v ». Est-ce dit ? Il vaut la peine d'y réfléchir, fit Thérèse qui, au contraire, sans réfléchir une minute, pensa en elle-même « Oui, c'est ce que je ferai ».